Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 16 janvier 2018, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, saisine de la Cour constitutionnelle pour annulation de la récente loi électorale.
Au Burkina Faso, des résultats dans les opérations de sécurisation dans le nord du pays, près de la frontière avec le Mali.
Et les pays du G5 Sahel ont lancé hier une deuxième opération anti-djihadiste.
En Côte d'Ivoire, procès de Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo.
En Ouganda, saisine de la Cour constitutionnelle pour l'annulation d'une loi supprimant la limite d'âge à l'élection présidentielle.
Réunion aujourd'hui à Vancouver, au Canada, entre les États-Unis et leurs alliés sur la crise du nucléaire nord-coréen.
Et ne manquez pas notre page sport avec les derniers résultats du CHAN au Maroc ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, un groupe de députés nationaux et sénateurs ont attaqué la nouvelle loi électorale devant la Cour constitutionnelle. Ils ont déposé hier leur requête en inconstitutionnalité contre cette loi promulguée fin décembre 2017 par le président Joseph Kabila et dont ils espèrent l'annulation. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous sommes respectueuses des institutions de la République, raison pour laquelle nous avons fait notre devoir. Il appartient maintenant aux magistrats de la Cour de dire le droit de manière indépendante, a déclaré le député national Christophe Lutundula, vice-président du G7. Ces élus indexent les dispositions fixant le seuil de représentativité au niveau national pour les candidats députés et la caution qu'ils jugent exorbitante. Le seuil de représentativité suppose l'addition des voix obtenues par un parti politique, un regroupement politique ou même un indépendant à travers toutes les circonscriptions de la République. Cette disposition exclut d'autres candidats de la compétition et viole ainsi l'article 101 de la Constitution, poursuit de son côté Henri Thomas Lokondo, député de la majorité présidentielle mais opposé à la loi. En plus, poursuit-il, la caution est exorbitante et elle élimine les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ce que nous posons est un axe citoyen et la loi qui a été votée, ce n'est pas une loi de la majorité ou de l'opposition, argumente-t-il. À la question de savoir si cette procédure ne va pas retarder les élections prévues le 23 décembre prochain, Ekombe Mpeti répond « La loi n'a pas été abrogée mais modifiée ». Il s'agit ici de n'élaguer que les dispositions inconstitutionnelles, qu'il cherche d'autres prétextes pour retarder les élections. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, environ 30 personnes ont été arrêtées, des armes saisies et des camps détruits, lors d'opérations de sécurisation dans le nord du pays en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Environ 200 individus ont été interpellés d'après un communiqué de l'état-major général des armées. Parmi eux, 33 ont été transférés aux unités de police ou de gendarmerie pour les besoins d'investigation. Les autres ont été libérés. Les détenus sont suspectés d'avoir des liens avec les groupes armés extrémistes qui sévissent dans le nord du Burkina. Les forces de sécurité ont fouillé et découvert des zones de refuge, des camps d'entraînement qui ont tous été détruits selon le communiqué. Des armes, des munitions, du matériel entrant dans la fabrication d'engins explosifs, des comprimés de tramadol, médicaments surnommés drogue des djihadistes, et de faux documents ont été récupérés. Le nord du Burkina, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes qui ont fait 134 morts en 89 attaques, selon un bilan officiel.
Les pays du G5 Sahel, pressés par leurs partenaires français d'accélérer la mise en œuvre de leurs forces militaires conjointes, ont lancé hier une deuxième opération anti-djihadiste. Cette nouvelle a été annoncée à l'issue d'une réunion à Paris par le ministre malien de la Défense, Tiena Koulibaly, lors d'une conférence de presse en présence de ses homologues du Tchad, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, ainsi que la ministre française des Armées, Florence Parly. Les participants à la réunion ont toutefois refusé de donner le moindre détail sur cette opération. Les pays impliqués ou le nombre d'hommes mobilisés pour des raisons de sécurité. Ils n'ont notamment pas voulu dire si un contingent tchadien y prenait part.
En Côte d'Ivoire, poursuite aujourd'hui du procès de Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense, de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, accusé de complot contre l'autorité de l'État. Ce procès s'est ouvert hier devant la cour d'assises d'Abidjan. M. Lida Kwasi est détenu depuis octobre 2014. Il comparaît en même temps que trois militaires, le colonel Paulin Kate Nyatoa, le sergent Serge Pacôme Durand-Brou et Samuel Zadi Gbaka, un élève officier de la marine, tous accusés de complot contre l'autorité de l'État. Les trois ont été arrêtés à Abidjan le 8 mars 2012, jour prévu pour la réalisation de leur projet. Lundi, Samuel Zadi Gbaka et Serge Pacôme Durand-Brou ont tous les deux nié à la barre les faits qui leur sont reprochés.
En Ouganda, des juristes ont saisi hier la Cour constitutionnelle pour l'annulation d'une loi qui a supprimé la limite d'âge à l'élection présidentielle, une mesure qui, selon les critiques, ouvre la voie à une autre candidature du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le climat général dans lequel le projet de loi a été débattu et adopté n'était pas bon, a expliqué Francis Guimara, président de l'Association des juristes ougandais. De nombreux Ougandais, y compris des membres du parti au pouvoir, de l'opposition et des dignitaires religieux, avaient exprimé leur opposition à ce changement. Des manifestations hostiles avaient éclaté dans diverses régions du pays, entraînant une intervention musclée des forces de sécurité. En septembre, une bataille rangée avait opposé au Parlement, partisans et adversaires de l'amendement constitutionnel. Au second jour de ces violences, la police était intervenue pour faire sortir de force certains législateurs accusés d'être à l'origine de ces échauffourées. Rien n'est sûr quant aux chances d'aboutissement de la saisie de la Cour constitutionnelle par l'Association des juristes ougandais. Certes, les juges ougandais ont rendu par le passé des décisions contraires aux intérêts du gouvernement, mais certains Ougandais estiment que l'indépendance judiciaire s'est nettement érodée sous le président Yoweri Museveni, âgé de 73 ans et à qui l'on prête l'intention de briguer notre mandat en 2021.
L'Afrique du Sud est le dernier pays à convoquer un diplomate américain pour demander des explications sur les propos grossiers qu'aurait proféré le président Donald Trump en parlant des migrants africains haïtiens et salvadoriens aux États-Unis. Ces propos qu'il aurait tenus lors d'une récente réunion à la Maison-Blanche avec des parlementaires américains ont été répétés ad nauseam à travers le monde pour que je les reprenne ici. Le président américain aurait dit aussi que les États-Unis devraient admettre plus tôt dans le pays des ressortissants de nations telles que la Norvège. Nombre d'organisations américaines et internationales ont exprimé des soucis selon lesquels les États-Unis et leur président emprunteraient un chemin raciste. M. Trump a démenti être raciste et il a souligné qu'il n'avait pas utilisé les propos qu'on lui reproche.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et leurs alliés se réunissent aujourd'hui à Vancouver, au Canada, sur la crise du nucléaire nord-coréen, au moment où les discussions en cours entre Séoul et Pyongyang font légèrement retomber la tension. Cette rencontre est co-organisée par la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et son homologue américain, Rex Tillerson. La Russie et la Chine sont très critiques de ce rassemblement. Et hier, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a vivement reproché aux Américains et à leurs alliés de vouloir imposer leur vue en se basant exclusivement sur le dictat et l'ultimatum et sans reconnaître la réalité d'un monde multipolaire.
Un organe clé de l'OLP a voté hier en faveur de la suspension de la reconnaissance d'Israël. Une telle mesure remettrait en cause l'un des principes fondamentaux de l'effort de paix, déjà très mal en point avec les Israéliens. Cet appel a été lancé au terme d'une réunion extraordinaire de 2 jours à Ramallah, en Cisjordanie, du Conseil central de l'OLP en présence du président palestinien Mahmoud Abbas. Elle avait été convoquée, cette réunion, pour répondre à la récente décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Un coup porté, selon les Palestiniens, à leur cause.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho. Eric Manirakiza.
En Côte d'Ivoire, le secteur privé s'insurge contre le dispositif fiscal prévu dans la loi de finances 2018. Il supprime les exonérations fiscales et une série de hausses d'impôts et taxes. Abidjan vise à mobiliser plus de 6 milliards de recettes fiscales pour financer son budget de plus de 6 723 milliards de francs CFA. Ce budget est en hausse de plus de 337 milliards de francs CFA par rapport à l'année passée. De son côté, le groupement interpatronal du Cameroun veut proposer au gouvernement une fiscalité intégrant le volet développement et rompre avec une taxation des entreprises sur le chiffre d'affaires. Parallèlement, ce plus grand regroupement patronal du pays publiera en avril le livre blanc de l'économie camerounaise. C'est un complément au document de stratégie pour la croissance et l'emploi, référence du gouvernement pour atteindre l'émergence en 2035. L'Éthiopie a enregistré près de 2 milliards de dollars de recettes touristiques. D'après la ministre éthiopienne de la Culture et du Tourisme, ses revenus sont en hausse de 10,5%. Elle a aussi relevé la finalisation des dossiers d'inscription des sites historiques de Dure Sheikh Hussein, Olka Sof Omar et Melka Kountré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus de 886 800 touristes ont visité le pays entre 2016 et 2017.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Libye débute par une victoire au championnat d'Afrique des Nations au Maroc.
Et oui, la logique a été respectée. À Tanger, la Libye a facilement dominé la Guinée équatoriale 3-0. On retrouve au Maroc les explications d'Amine Birouk pour VOA Afrique.
La logique a été respectée lors du match Libye-Guinée-Équatoriale comptant pour le CHAN 2018. Tête de série du groupe C, basé à Tanger, les Chevaliers de la Méditerranée, tenant du titre 4 ans plus tôt, ont dominé le rival sur le score sans appel de 3-0. Les Libyens ont confirmé leur supériorité dès l'entame du match avec un doublé de Taher Saïd après seulement 17 minutes de jeu, avant de sceller le sort du match grâce à El Mabrouk à 3 minutes du terme. Ce succès permet aux vainqueurs du CHAN 2014 d'envisager la suite de la compétition avec sérénité. Un succès contre le Nigeria vendredi prochain leur ouvrirait les portes des quarts de finale. Les Équato-Guinéens, quant à eux, devront battre le Rwanda s'ils veulent se maintenir dans la compétition. Depuis Agadir au Maroc, Amine Birouk pour VO Afrique.
Déception en revanche pour le Nigeria, l'un des poids lourds de ce championnat d'Afrique des Nations 2018. Il a été tenu en échec par le Rwanda 0-0 pour son entrée dans la compétition. Les Nigérians qui n'ont pas eu de chance, ils ont touché le poteau à 3 reprises. À suivre ce mardi, le groupe D, les étalons du Faso face à l'Angola, les Lions indomptables du Cameroun qui affronteront les Diables Rouges du Congo.
Et demain, le Maroc qui pourrait déjà se qualifier pour les quarts de finale.
Oui, mercredi dans le groupe A, les Lions de l'Atlas devant leur public du stade Mohamed V à Casablanca, affrontent le Sili National de Guinée. Les Marocains en pleine confiance après leur premier succès 4-0 en ouverture contre la Mauritanie. Quant au Mourabitoun, ils espèrent se relancer face au Soudan.
On reparle de l'arbitre du match Afrique du Sud-Sénégal de novembre 2016. Sa suspension à vie confirmée.
La FIFA qui indique que le tribunal arbitral du sport confirme la décision à propos de Joseph Odarte Lamptey. L'arbitre est bien suspendu à vie après sa prestation lors du match Afrique du Sud-Sénégal. Souvenez-vous, c'était le 12 novembre 2016, un match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Ce match, émaillé d'erreurs d'arbitrage flagrantes, a été annulé et rejoué. Le tribunal arbitral du sport qui conclut que Joseph Lamptey a intentionnellement pris deux mauvaises décisions dans le seul but de permettre qu'un nombre spécifique de buts soit marqué afin de valider des paris victorieux.
Cyclisme, un Allemand au jaune sur la tropicale Amissa Bongo.
La 13e édition a débuté hier à Kango, une étape de 146 km. Et c'est au sprint que l'Allemand Lucas Kartensen l'emporte sur les bords du fleuve Ogoué. À l'arrivée à Lambaréné, Kartensen s'élancera donc en jaune ce mardi pour la deuxième étape qui reliera Ndende à Fougamou, une étape longue de 175 km.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Les Bulls ont signé une troisième victoire d'affilée face au Heat de Miami, 119-111. Zach LaVine a confirmé qu'il allait apporter beaucoup à Chicago. Washington a chuté contre un autre prétendant au play-off, Milwaukee, 95-104. Alors qu'ils avaient le match en main, les Pistons de Détroit ont chuté 118-107 contre Charlotte. Et puis les Knicks de New York qui dominent les Nets de Brooklyn 119-104 pour la troisième fois en trois derbies. Toujours aussi irréguliers, les San Antonio Spurs, peu inspirés, sont tombés chez l'un des cancres de la NBA, les Hawks d'Atlanta. Une défaite 99-102. Idrissa.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, l'armée a lancé depuis quelques jours une opération dans le sud du pays, une région en proie à une rébellion vieille de 35 ans. Une personne a été tuée depuis le début de cette opération qui fait suite à l'assassinat de 14 jeunes coupeurs de bois par des hommes armés. De leur côté, les enquêteurs ont arrêté une vingtaine de personnes. Pour faire le point sur la situation en Casamance, Abdourahmane Dia a joint sur place le directeur de l'information de la chaîne télé, de la chaîne sénégalaise TFM, Barkaba.
Sur place, les gens sont partagés entre l'émotion et la consternation parce que depuis plus de 5 ans maintenant, cette région sud qui a longtemps été en proie à un conflit meurtrier connaissait une accalmie. Donc, les gens avaient commencé à retrouver beaucoup, beaucoup d'espoir et même le coup de vivre. Il y a beaucoup de réfugiés dans les zones qui avaient été les plus touchées par les combats qui étaient rentrés dans leur village d'origine. Beaucoup d'anciens maquisards du MSDC qui s'étaient réinvestis dans des projets de développement.
Depuis la tuerie de Bofa, l'armée sénégalaise mène une opération en Casamance et on parle d'un mort au moins et d'une vingtaine d'arrestations. Est-ce qu'il y a une crainte auprès des populations d'un retour à une confrontation directe entre l'armée et le MFDC?
Pour le moment, on n'assiste pas à un sentiment de psychose ou de panique de la part des populations parce que les opérations de l'armée ne se mènent pas dans la ville de Ziguinchor. Elles se mènent plutôt du côté des bases rebelles où effectivement il y a des bombardements qui ont été faits par l'armée. Depuis 3 ou 4 jours, on s'est réveillé tôt le matin à Ziguinchor dans le son des canons. Mais on ne sait pas d'où ces tirs partent et on ne sait pas d'où ils atterrissent. Et l'armée ne communique pas beaucoup sur ces opérations, sinon que le chef d'état-major est venu tenir un point de presse à Ziguinchor pour dire que le rôle de l'armée, ce sera de sécuriser les personnes et les biens.
Est-ce qu'on en sait un peu sur le profil des personnes qui ont été arrêtées jusque-là?
Il y a un début de piste qui semble se dessiner, même si les interpellés bénéficient pour le moment de la présomption d'innocence. Un indice qui montre qu'il y a une piste sérieuse pour les enquêteurs, c'est que parmi la vingtaine de jeunes gens arrêtés dans le village de Toubakouta, il y a 4 parmi eux qui ont été très récemment élargis de prison. C'est-à-dire que ces 4 jeunes faisaient partie d'un comité de vigilance qui s'occupait à faire respecter un peu l'interdiction de la coupe du bois qui semble être à l'origine du drame.
Et si c'est le cas, le démenti du MFDC semble beaucoup plus crédible.
Pour le moment, oui, le MFDC, en tout cas la faction qui contrôle cette zone, celle de César Atoubadia, non seulement condamne la tuerie, mais a tenu à se démarquer des auteurs de ce carnage et a même dit qu'ils allaient diligenter une enquête en leur sein.
C'était le journaliste sénégalais Barkaba, joint à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
La justice française a rendu une décision de non-lieu dans l'enquête sur les accusations de viol commis par des soldats français de l'opération Sangaris contre des enfants en Centrafrique entre 2013 et 2014. Pour maître Bruno Yacinthe Gbegba du réseau des ONG pour la promotion et la défense des droits de l'homme en Centrafrique, il s'agit d'une décision politique. Écoutons-le au micro de Félix Yepassis Zembro.
Je suis à la fois dépité et pas tellement étonné parce que c'est une décision politique rendue par une justice pour couvrir les éléments des forces françaises qui sont intervenues en RCA. Si on devait les poursuivre, l'image de l'armée française serait écorchée. Et comme les Français ont toujours fait, ils ont toujours diabolisé les éléments des forces de défense et de sécurité des autres pays. Et aujourd'hui, s'ils venaient à poursuivre leurs propres éléments pour ce cas de viol sur mineurs, ça serait très grave pour l'image de cette armée. C'est pour cette raison qu'on a rendu cette décision politique, je pèse bien mes mots, pour blanchir les éléments français qui ont bien sûr commis des fautes graves en RCA. On aurait pu commettre une commission rogatoire pour permettre à ces juges de défendre à Bangui venir auditionner des enfants victimes. Ça n'a pas été le cas. Une manière de se moquer de la faiblesse de notre État et des victimes.
Quelle action comptez-vous mener contre cette décision de la justice française?
Il y a encore des voies qui sont là, qui sont ouvertes. Il y a la voie de l'appel. Nous allons nous concerter au niveau de la société civile avec le conseil en notre sein qui suit cette affaire. Parce que c'est une décision qui n'a pas été rendue en dernier recours. Et nous réfléchissons là-dessus.
Vous parlez d'une décision politique. Comptez-vous saisir le gouvernement face à cette situation?
Il appartient au gouvernement de se prononcer. Ce sont des Centrafricains qui ont été victimes. Le gouvernement devait soutenir les victimes. Ça n'a pas été le cas. Mais nous allons continuer à nous battre aux côtés de ces victimes pour que ces victimes-là puissent un jour faire triompher le droit. Quand vous voyez la justice française s'obstiner à continuer à poursuivre les Rwandais dans le cadre du génocide, et lorsqu'il s'agit des Français, on vous oppose un mot barbare qu'on appelle le secret défense. Et quand il s'agit des Français, on oppose le secret défense, mais quand il s'agit des Rwandais, on continue à mener les enquêtes. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire pour les victimes du côté centrafricain. Et nous n'allons pas laisser ces victimes, nous allons tout faire pour que la justice triomphe.
C'était Maître Hyacinthe Bruno Gbegba du réseau des ONG pour la promotion et la défense des droits de l'homme en Centrafrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé s'est inquiétée hier d'un haut risque de propagation de l'épidémie de choléra à Kinshasa, mégapole de quelques 10 millions d'habitants avec des problèmes sanitaires et d'évacuation des eaux, aggravés par de récentes inondations. Arzuma Compaoré a interviewé Dominique Ouélouli, ministre provincial de la ville de Kinshasa.
Depuis le 25 novembre dernier jusqu'à aujourd'hui, nous avons connu au total 593 cas notifiés. Ils ont été pris en charge correctement, mais nous avons perdu jusque-là 33 personnes. Au moment où je vous parle, il y a 25 personnes qui sont sous traitement à l'unité de traitement de choléra sur place au camp Luka où il y a eu la flambée. Et puis, il y a 11 qui sont sous traitement dans une autre unité de traitement de choléra à Pakajuma, qui est un quartier dans la commune de Limete.
Est-ce que l'on sait déterminer avec exactitude qu'est-ce qui a favorisé justement cette flambée de l'épidémie?
Non, je pense que Kinshasa est une ville ouverte à beaucoup d'autres villes. Il y a certainement, c'est ce que nous sommes en train de dire, il y a des déplacés. Ceux qui sont venus de l'intérieur, ce sont eux en fait qui sont à l'origine de cette épidémie. Quelques cas sont apparus dans un quartier où il y a une forte promiscuité. Et il faut dire qu'il y a aussi un problème d'environnement qui n'est pas très simple dans ce coin. Eh bien, il y a eu cette propagation assez rapide. Nous avons installé une unité de traitement de choléra et depuis, je pense que nous réussissons à stabiliser les patients qui sont acheminés là-bas.
Aujourd'hui, vous pensez que la situation est sous contrôle?
La situation est vraiment sous contrôle avec la surveillance épidémiologique. Si on fait les calculs, nous avons au total 36 patients. Je pense que c'est quand même un effort considérable qui a été entrepris aussi bien par le gouvernement provincial de Kinshasa que par le gouvernement de la République. Le choléra est une maladie de mains sales. Laver le mains correctement avec du savon, bouillir par exemple correctement les aliments, etc. Donc, nous pensons qu'avec la sensibilisation, nous pourrions éviter cette maladie-là.
Dominique Ouélouli, ministre provincial de la Santé, Affaires sociales et Communications de la ville-province de Kinshasa.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la tuberculose, une maladie opportuniste fréquente chez les personnes séropositives.
En effet, selon l'OMS, la tuberculose est le premier facteur de mortalité chez les personnes porteuses du VIH-SIDA. En 2015, 35% des décès des séropositifs ont été dus à la tuberculose.
Pour en parler, nous recevrons comme invité le docteur Moutaza Lusungu Baba, médecin généraliste. Il nous dira comment éviter la maladie et il nous parlera aussi des soins appropriés pour les malades.
Nous écouterons le témoignage l'âge d'un malade et nous nous rendrons dans un centre d'encadrement et de professionnalisation des jeunes tuberculeux en RDC.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Les Africains continuent de réagir avec colère aux propos insultants qu'aurait tenus le président américain Donald Trump au sujet des pays africains et d'Haïti, des remarques qualifiées de blessantes et de dérangeantes par l'Union africaine. Pour une analyse, Blanche Sanou a joint à Dakar l'analyste Ibrahim Khan.
Pour moi, ce que le président des États-Unis a fait, ce n'est que l'expression du racisme latent qui existe dans la société américaine. Mais de façon plus globale, l'attitude raciste dans beaucoup de sociétés occidentales vis-à-vis des étrangers, particulièrement des Africains. Et cela est vraiment triste parce qu'on pensait que nous vivons dans un monde de solidarité. Nous vivons dans un monde où ceux qui en ont essaient de tout faire pour que ceux qui n'en ont pas émergent. Mais nous constatons, pour bien sûr le dénoncer et se désoler de cette situation, qu'il y a dans ce monde-là des gens qui se croient supérieurs aux autres, parce que simplement, ils ont une couleur de la peau qui est différente de celle des autres. Et ça, vraiment, c'est inacceptable au XXIe siècle.
Pensez-vous qu'un jour, réellement, les relations entre les États africains et Trump pourraient s'améliorer?
Enfin, j'en doute, parce que pour une fois, les États africains ont réagi et, de mon point de vue, ont bien réagi. On a vu, par exemple, au Sénégal, le président de la République exprimer quelques minutes après avoir appris par les médias ce que Trump a dit. Il a exprimé sa désapprobation, il a demandé au ministre des Affaires étrangères de convoquer l'ambassadeur des États-Unis et qu'ils ont exprimé publiquement vraiment leur opinion par rapport à cela. L'Union africaine a dénoncé dans un communiqué, mais mieux, tous les ambassadeurs qui sont réunis aux États-Unis ont fait un communiqué pour dénoncer cette situation. Ça, c'est déjà un premier pas. Mais il me semble que le deuxième pas, c'est d'aller plus loin, c'est de profiter de ce momentum pour maintenant demander à ce qu'il y ait plus de respect.
Au-delà même des dénonciations, est-ce qu'il n'est pas temps de poser vraiment des actions concrètes pour mériter ce respect dont vous parlez?
Mais ces actions concrètes, madame, ça dépend en grande partie de nos dirigeants. De la manière dont nos dirigeants gèrent les États, de la manière dont nos dirigeants traitent leurs citoyens, mais aussi de la manière dont nos dirigeants conçoivent les relations internationales. On peut être un pays pauvre et être un pays digne. Regardez par exemple les relations entre la France et le Rwanda. Voilà un exemple qui montre que si on est ferme dans son comportement, dans ses idées, si on est intransigeant par rapport à certaines questions, le respect suit. Mais si vous avez besoin de régler vos problèmes budgétaires, vous allez commander, si vous avez besoin de ceci, cela, sans même essayer de chercher à trouver des solutions locales, domestiques, vous allez commander. Bon, celui qui donne a toujours la main au-dessus. Et donc, peut avoir une attitude de dédain, une attitude, peut même se sentir supérieur à l'autre.
L'analyste Ibrahim Khan, joint à Dakar.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Boy back home in Michigan, and it tastes like Jack when I'm kissing him. So I told him that I never really liked his friends. Now he's gone and he's calling me a bitch again. It's the guy that lives in a garden state, and he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait, but he wants me in the kitchen when it's dinner plate. I believe that we're meant to be. But jealousy, get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, cause I'm bad at love. Ooh, but you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.